Soyez les bienvenus pour le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, descendre dans la rue pour défendre et la planète et la feuille de paye. Un collectif d'ONG et de syndicats appelle ce matin à un printemps climatique et social. Tribune publiée en exclusivité sur franceinter.fr. À 3 jours d'un rassemblement national, explication à suivre dans un instant. L'affaire Adama Traoré peut-elle encore rebondir? Une nouvelle expertise médicale remet en question la version de la justice. Nous serons en direct avec notre spécialiste police. Dans l'actualité également, la deuxième gifle des députés britanniques contre leur première ministre. Ils ne veulent pas du texte sur le Brexit négocié par Theresa May. L'Europe qui ferme son ciel au Boeing 737 Max. Et en fin de journal, cette question, la Joconde nue, est-elle l'œuvre de Léonard de Vinci?
L'ancien conseiller en communication de François Hollande et candidat à la mairie de Paris, Gaspard Ganzer, sera dans 20 minutes à 7h50. Je vous le rappelle, l'invité de Léa Salamé.
France Inter.
Quand les syndicats de salariés, Sébastien, rejoignent les défenseurs de la planète.
La CFDT a déjà entamé ce rapprochement. La semaine dernière, la centrale de Laurent Berger lançait un pacte social et écologique avec Nicolas Hulot. Eh bien, nouvelle initiative. Ce matin, une tribune exclusive sur le site de France Inter et sur l'agence France Presse, signée par plusieurs organisations. Attaque, la Ligue des droits de l'homme, Oxfam, France Nature Environnement, l'affaire du siècle, mais également la CGT et Solidaire. Un texte afin que les manifestations à venir soient autant des cortèges pour le climat que pour la justice sociale. Parmi les signataires, on le disait, la CGT, distancée sur ces questions par la CFDT et qui compte bien cette fois prendre le train en marche. Célia Quilleray.
Philippe Martinez sera bien dans la rue samedi après-midi à Paris avec les marcheurs pour le climat. La semaine dernière, le leader de la CGT avait regretté la précipitation de Laurent Berger qui avait publié un appel de son côté avec Nicolas Hulot. Aujourd'hui, il estime que la place des salariés est dans les manifestations pour établir un rapport de force.
Il est évident qu'aujourd'hui, on a besoin justement de regrouper nos forces. Certains, je pense au gouvernement, ont essayé de culpabiliser les citoyens qui n'ont pas grand-chose pour vivre sur leur responsabilité sur le dérèglement climatique. Et nous, notre souci, c'est justement de ne pas opposer les urgences sociales et les urgences climatiques.
Sur le fond, cette tribune publiée aujourd'hui par Attac, Oxfam et la CGT n'est pas très éloignée de l'appel de la semaine dernière qui demandait un Big Bang fiscal. Mais Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, insiste surtout sur l'inaction du gouvernement.
Les premières victimes du désastre écologique, ce sont les plus précaires, mais en même temps les premiers responsables c'est aussi les multinationales les plus riches et puis le gouvernement, les gouvernements qui ne prennent pas à bras le corps à la fois cette urgence écologique et cette urgence sociale.
Le pari des organisations signataires de cette tribune est donc de faire défiler ensemble des militants pour le climat, pour les droits de l'homme, des salariés et des sans-papiers. Sur la forme, cette mobilisation est donc bien différente de l'appel de la CFDT. 170 cortèges sont prévus samedi pour ce printemps climatique et social.
Célia Quilleray, une manifestation nationale pour le climat, je vous le rappelle, est organisée dans tout le pays ce samedi 16 mars. Ajoutons qu'on a appris hier que la pollution ferait 800 000 morts par an en Europe, deux fois plus que les précédentes estimations.
7h33, Sébastien, et c'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Traoré.
L'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme mort des suites d'une interpellation musclée à Beaumont-sur-Oise en juillet 2016. Alors que les juges d'instruction s'apprêtent à clore le dossier sans aucune mise en examen des gendarmes soupçonnés d'avoir asphyxier la victime, eh bien les avocats de la famille ont versé hier une nouvelle pièce. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste police à France Inter. Cette nouvelle pièce, Emmanuel, c'est une nouvelle expertise médicale très troublante.
Oui, c'est une contre-expertise privée car elle avait été refusée par les juges d'instruction en charge du dossier. La famille Traoré est donc passée outre. Elle est signée par 3 professeurs et 1 docteur parisien, spécialiste notamment de la sarcoïdose et de la drépanocytose, ces 2 maladies bien connues au Mali dont était originaire Adama Traoré et qui apparaissent dans la précédente expertise comme le facteur explicatif de sa mort, une embolie pulmonaire et un arrêt cardiaque après un effort et un stress intense lié à sa course-poursuite avec les gendarmes et à son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Et le moins que l'on puisse dire, Sébastien, c'est que cette contre-expertise que nous avons pu consulter est cinglante. Les professeurs consultés remettent totalement en cause les conclusions de leur confrère, maître Yacine Bouzrou et l'avocat de la famille Traoré.
Ils partent surtout du principe que l'expertise précédente a rendu des conclusions contraires aux données médicales acceptées par la communauté scientifique. Donc en réalité, ils disent surtout que ce qui a été fait avant était contraire même à l'éthique médicale. Les conséquences attribuées à ces pathologies sont totalement fausses. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, bien entendu, c'est que la justice en tienne compte.
Yacine Bouzrou, avocat de la famille Traoré. Alors, est-ce que cette expertise, Emmanuel, est de nature à relancer l'enquête ?
Eh bien, en tout cas, le document de 15 pages a été versé au dossier avant-hier. Le parquet de Paris et les juges d'instruction en charge du dossier devront dire si cette contre-expertise est effectivement recevable ou pas, d'autant que les spécialistes de médecine interne consultés par la famille d'Adama Traoré, Sébastien, s'étonnent au final de voir à quel point les éléments de l'autopsie du corps liés à une arrestation musclée par les gendarmes ont été minorés.
Les explications d'Emmanuel Leclerc. Merci. Toujours pas de plan violence du gouvernement à l'école, mais une grande enquête sur le climat scolaire, enquête lancée hier sur Internet auprès des 170 000 personnels de l'éducation nationale, profs, proviseurs, personnels administratifs. Elle se déroulera jusqu'au 5 avril prochain. C'est presque tout le ciel qui se ferme progressivement aux avions Boeing 737 MAX. Après l'Asie, c'est au tour de l'Europe de suspendre les vols de ces appareils impliqués dans deux crashs en moins de 6 mois. L'administration américaine, elle l'une des rares à maintenir sa confiance à l'avionneur, mais les passagers et les pilotes américains, eux, ne sont pas toujours très rassurés, comme a pu le constater notre correspondant aux États-Unis, reportage de Gregory Phillips à l'aéroport de Washington.
Le vol de 17h10 à destination de Los Angeles se fait sur un Boeing 737 MAX, 170 passagers environ, et en vérité au comptoir American Airlines, pas vraiment d'inquiétude. Il faut vraiment que j'aille là-bas, dit cette passagère. Et son ami ajoute, il y a beaucoup d'avions identiques qui n'ont aucun problème, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en préoccuper. Seules deux compagnies américaines disposent pour l'instant de ces nouveaux monocouloirs fabriqués par Boeing. Southwest, avec une trentaine d'appareils, et American Airlines, qui en compte une vingtaine dans sa flotte. Au comptoir d'enregistrement, cet employé d'American doit répondre à quelques interrogations de la part des passagers. Oui, c'est vrai, ils posent des questions, mais ils ne sont pas trop inquiets. Pourtant, deux heures plus tôt, l'agence de sécurité aérienne européenne a à son tour décidé de suspendre tous les vols de cet avion, ce qui ne contribue pas à rassurer Kathleen, qui heureusement, hier soir, partait sur une autre destination. Moi, je pense qu'ils devraient quand même les clouer au sol, le temps de comprendre ce qui n'a pas marché. Mais c'est vrai que je préfère ne plus prendre cet avion. Aujourd'hui, je suis sur un autre appareil. Les standards téléphoniques des deux compagnies croulent apparemment sous les appels et les questions des passagers. Quant au syndicat des personnels navigants d'American Airlines, il a conseillé à ses membres de ne pas monter à bord de ces avions s'ils ne se sentaient pas en sécurité. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Si l'Europe fait bloc contre Boeing, elle chancelle en revanche autour du Brexit. Nouvelle humiliation pour Theresa May hier. Pour la seconde fois, les députés britanniques ont très largement retoqué son texte sur le Brexit. Les députés qui doivent aujourd'hui se prononcer sur une éventuelle sortie sans accord de l'Union européenne. Résultat ce soir. C'est un espoir limité, mais un espoir quand même pour quelques dizaines de salariés de Ford Blanquefort menacés de perdre leur travail. Le géant industriel Safran devrait ouvrir d'ici 2020 une imprimerie 3D dans l'agglomération bordelaise. 30 à 50 salariés de Ford pourraient y trouver leur place. 850 risquent toutefois d'être licenciés.
7h38, direction l'Algérie, Sébastien, où la rue continue de se mobiliser contre, dit-elle, la ruse de Bouteflika.
Le renoncement du président algérien n'a pas calmé les manifestants qui demandent maintenant la fin du système. L'exécutif essaye de temporiser en proposant un grand débat, version algérienne, une conférence nationale chargée d'élaborer la future architecture constitutionnelle et politique du pays. Et à la tête de cette conférence, le diplomate chevronné Lakhdar Brahimi. Son portrait avec Christian Chesneau.
Le vieux diplomate algérien s'engage dans une nouvelle mission impossible, présider la conférence nationale qui doit accoucher d'une nouvelle constitution et d'un calendrier électoral. Le dernier défi d'une longue carrière internationale jalonnée de dossiers plus difficiles les uns que les autres. Pour le compte de la Ligue arabe, il sera l'artisan de l'accord de Taif qui met fin à la guerre civile libanaise en 1989. En Afrique du Sud, cette fois-ci pour l'ONU, Lakhdar Brahimi supervise les premières élections post-apartheid qui portent Mandela au pouvoir. Après la chute des talibans, il est la cheville ouvrière de la conférence de Bonn de décembre 2001 qui fonde les nouvelles institutions afghanes. Sa dernière mission, comme médiateur des Nations Unies pour la Syrie, est un échec. Il jette l'éponge, impuissant à faire dialoguer l'opposition anti-Assad et le régime de Damas. À 85 ans, Lardar Brahimi hérite d'un dossier miné où se joue l'avenir de son propre pays. Et déjà, la presse algérienne pointe du doigt son éloignement depuis tant d'années puisqu'il vit à Paris et sa méconnaissance des réalités locales tant côté du pouvoir que de l'opposition.
Christian Chesneau, près de 9 Français sur 10 se déclarent lecteurs. Un tiers lit plus de 20 livres par an, c'est 3 points de plus qu'il y a 2 ans. Résultat du baromètre du Centre National du Livre à la veille de l'ouverture du Salon du Livre de Paris.
Et pour finir, question sur l'une des plus belles énigmes de l'histoire de l'art.
La Joconde nue du musée de Condé au château de Chantilly a-t-elle été dessinée par Léonard de Vinci? Après avoir été attribuée à Léonard, puis désattribuée, voilà que des analyses scientifiques la rapprochent à nouveau du maître de la Renaissance. Des études réalisées en vue d'une grande exposition autour de cette Joconde. Elle aura lieu au château de Chantilly à partir du 1er juin. Isabelle Pasquier.
Elle est troublante, cette Joconde nue avec son léger strabisme. Ça n'est pas une version érotique de Mona Lisa. Bien sûr, la position des mains et le sourire rappellent la Joconde du Louvre, mais malgré sa poitrine, elle est nettement androgyne, voire tendance queer. Son visage rappelle le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci et son bras gauche est le bras d'un homme. Alors derrière cette beauté ambiguë, Léonard ou pas Léonard? On a passé la Joconde nue au rayon X, à la lumière infrarouge et sous fluorescence d'ultraviolet. Résultat avec Mathieu Deldic, conservateur au musée Condé.
C'est une œuvre, quand on regarde les imageries de laboratoire, qui est d'une grande qualité. Vous avez le modelé, vous avez le jeu d'ombre et de lumière. C'est une œuvre aussi qui est une œuvre de création. Alors l'un des éléments les plus stimulants des analyses, c'est la découverte de traits de gaucher. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on sait que Léonard de Vinci était gaucher. Ça n'est pas le seul gaucher dans son atelier. Francesco Melzi est aussi gaucher, l'un de ses élèves les plus proches. Ce qui nous permet d'avancer des hypothèses. On est sûr qu'on est dans l'atelier du maître, c'est certain. Et il y a une probabilité très forte que Léonard de Vinci ait participé pour toute ou partie de ce dessin. C'est difficile d'aller au-delà.
500 ans plus tard, la Joconde nue continue de nous regarder avec son sourire à peine moqueur de celle qui est la seule à connaître son créateur.
Voilà, le mystère reste entier, c'est ça le plus beau, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie.